Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail.
Non, la relation au travail.
Mais non, les relations au travail.
Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit.
Eh ben, ça commence bien.
Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective.
Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale.
Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle.
Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives
pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le podcast Secoue ton taf. Aujourd'hui, épisode 5, l'éloquence, outil de communication et d'efficacité. Bonjour Aurélie.
Bonjour Marion. Bon, tu nous dis ce que c'est que l'éloquence pour commencer ?
Ah ah, bien sûr. Je vais faire ma prof de français un peu. Le mot éloquence est un emprunt au dérivé latin classique eloquentia, d'où le nom du fameux concours, vous connaissez. Eloquentia signifie facilité d'expression, ou bien art de la parole, au sens de manière de s'exprimer avec aisance, capacité à émouvoir, à persuader par le discours. L'éloquence, c'est donc l'art de parler, l'art d'exprimer une pensée. Parler, c'est laisser sortir un élément de sa conscience, c'est entrer en contact avec l'autre, vocalement. I smile to see myself so beautiful.
Laisser sortir un élément de sa conscience. Tu veux dire qu'en parlant, nous pensons en quelque sorte ? C'est pas plutôt l'inverse ?
Eh bien, pas vraiment. Selon Noam Chomsky, linguiste américain, le langage est une compétence innée, spécifique aux humains, qui permet le fonctionnement de la pensée. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de sa théorie aujourd'hui, je n'en ai pas le temps. Mais l'idée que je trouve intéressante, c'est que c'est par la parole, c'est-à-dire l'expression de sa pensée, que l'on structure effectivement cette pensée. En parlant, je construis ce que je pense. Par exemple, les enfants développent leurs capacités intellectuelles en acquérant le langage. D'après toi, Aurélie, pourquoi les enfants d'environ 2 ans disent souvent non à tout ?
Sûrement parce qu'ils manquent un peu de vocabulaire et expriment leur frustration ? Ou bien peut-être s'affirment-ils ?
Oui, ils s'affirment, en effet. Le vocabulaire est là depuis toujours en réalité. Les mots bercent nos enfants depuis l'utérus et leur cerveau enregistre tout. Mais c'est en parlant effectivement qu'ils développent leur pensée propre et qu'ils deviennent uniques. En disant non, l'enfant s'affirme en tant qu'individu existant par lui-même et non plus à travers la mère et ou le père. Dire non, c'est structurer sa pensée en s'appuyant sur celle de l'autre. Je dis non, et je pense que moi, je n'aime pas les épinards. Ça te semble clair ?
Oui, oui, je crois. Ce que tu dis, en fait, c'est que la parole construit la pensée, que les mots ne sont que des outils. Si on ne parle pas, on n'étoffe pas sa pensée, tout du moins, on ne la structure pas. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple plus proche de notre sujet, qui est le monde du travail ?
Je vais essayer. Je pense à des situations de travail où l'on doit convaincre, par exemple, votre directrice, qu'il faut manager par les talents.
Ah Marion, quel talent pour le coup ! Les amis, Marion fait de l'autopub pour l'épisode 3 de notre podcast consacré aux talents.
Ouais, je sais, je sais. Bon, revenons au sujet. Donc, vous voulez convaincre votre collaboratrice. Vous avez bien sûr réfléchi à des arguments chocs. La discussion s'engage. Vous parlez et la personne vous répond. Et là, sorti de nulle part, vous vient à l'esprit le bon argument ou bien le bon exemple. L'élément auquel vous n'aviez pas pensé, mais qui est déclenché par une parole de votre interlocutrice. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, en tout cas, moi je vois. Et on a tous et toutes vécu ça au moins une fois dans sa vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs.
Eh bien, c'est l'expression vocale, verbale de votre pensée qui l'a fait avancer davantage. Et c'est en entendant la pensée de l'autre que vous affirmez encore la vôtre. Le fait de parler développe votre pensée.
Ok, il me semble que c'est plus clair. Je vois bien comment la parole et la pensée s'articulent. Mais je me demande encore à quoi peut bien servir l'éloquence dans le monde du travail. J'imagine des avocats au barreau, des enseignants devant un amphi. Ok, mais c'est très spécifique. Dans le monde de l'entreprise, que peut-on bien vouloir faire de l'éloquence ?
Ça, c'est parce que lorsqu'on entend le mot éloquence, on entend un discours brillant, qui fait lever une foule, qui embarque tout le monde. Mais rappelle-toi, Aurélie, l'éloquence, c'est l'art de parler, tout simplement. Au XIXe siècle, on associait l'éloquence à l'art de la rhétorique, convaincre, persuader, bref, argumenter. Mais parler, exprimer sa pensée, ce n'est pas que cela. L'idée est plutôt de transmettre un message avec pertinence et efficacité, quel que soit le public.
Ok, tu as des exemples?
Dans le monde de l'entreprise, nous avons besoin de l'éloquence, par exemple, lors d'un entretien de recrutement, pendant des réunions de service, dans une démarche de prospection, et j'en passe. Dans l'entreprise, il faut savoir exprimer des idées avec aisance et confiance. L'idée est d'être compris, comprise et acceptée. Je vois trois grands objectifs à être éloquent ou éloquente en entreprise. Informer, convaincre ou persuader, et élever l'autre.
Pas facile pour tout le monde. On n'est pas tous égaux ou égales.
Si, si, parce que tout le monde peut tout apprendre. On peut donc apprendre à parler. À part Cassandre, la jeune femme troyenne de la mythologie grecque que personne ne croyait jamais. Mais bon, elle était maudite, donc ça compte pas.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré.
Donc, être éloquent, ça s'apprend. Tu peux nous donner quelques pistes alors?
Avec plaisir, Aurélie. Je commencerai bien par balayer quelques idées reçues. Non, l'éloquence n'est pas un don inné. Non, il ne faut pas renoncer à sa personnalité quand on s'exprime à l'oral, bien au contraire. Oscar Wilde, auteur irlandais de la fin du 19e siècle, disait d'ailleurs « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Non, ce n'est pas que le propos qui compte, mais aussi et surtout, si j'ose dire, la façon dont on exprime sa pensée. Et enfin, non, celles et ceux qui écoutent ne vous veulent pas de mal. Il ou elle ne surveille pas vos erreurs, il ou elle vous écoute, c'est tout.
Ça, ça me fait du bien avec mon type vert, moi. C'est très décomplexant.
Oui, c'est un bon début de se rappeler tout ça avant de commencer à parler. Pour travailler son éloquence dans le cadre du travail, il me semble que le plus important est avant tout de bien se connaître et de s'accepter tel qu'on est. Je vous renvoie bien sûr vers le modèle comme Colors. Il s'agit donc d'apprendre à s'apprivoiser, à connaître ses peurs pour mieux lutter contre elles, à savoir montrer sa vulnérabilité, c'est-à-dire qui l'on est et ce que l'on pense. Bref, il faut oser.
Alors selon toi, Marion, c'est quoi la clé d'une prestation orale réussie?
La clé, je ne sais pas. Les clés peut-être? D'abord, il ne faut pas se couper de ses émotions, bien au contraire. Elles sont là pour vous connecter aux autres, ne l'oubliez pas. Nos émotions nous permettent de transmettre un message et de recevoir la parole de l'autre également. Je renvoie aux épisodes sur la communication non violente. Pour ce qui est de la transmission, il faut que votre parole soit en adéquation avec ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes mal à l'aise, assumez-le. Si vous êtes de bonne humeur et que vous avez envie de rire, annoncez-le. Vous y gagnerez l'adhésion de celles et ceux qui vous écoutent et donc une bien meilleure attention. Tu sais, Aurélie, que j'ai enseigné longtemps en collège. Eh bien, lorsque je débutais un cours en exprimant mes émotions, tout se passait mieux que lorsque je les gardais pour moi. Par exemple, il est arrivé que j'arrive devant une classe dans une humeur exécrable, souvent à cause de toute autre chose que les élèves eux-mêmes d'ailleurs. À chaque fois que je l'ai assumé et que j'ai exprimé explicitement mon état émotionnel, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, tout s'est bien passé. Les élèves ont été beaucoup plus à l'écoute, dans l'empathie. Mais lorsque j'ai choisi de masquer mes émotions, ça a été la catastrophe. J'étais impatiente et exigeante. N'oublions pas en plus que je suis violette. Je montais le ton de façon excessive et les élèves manquaient d'autant plus d'attention et de motivation. Et nous sommes bien d'accord que je ne parle pas du contenu du cours là, parce que peu importe de quoi était composé mon cours. Ce n'est pas l'activité que je proposais à mes élèves qui jouait sur leur comportement, mais bien la façon dont je transmettais mon message.
Là, j'ai envie d'intervenir, Marion, si tu permets. Moi, ce que tu dis, là, ça me fait penser au concept de douche psychique en communication non violente, mais aussi ça me fait penser à la théorie de la contagion émotionnelle, expliquée notamment dans l'ouvrage éponyme de Christophe Hague. Le concept, c'est que nous sommes tous et toutes dotés de neurones miroirs, qui sont des capteurs émotionnels, en quelque sorte. Pour aller vite, si tu souris, je souris, si tu pleures, je pleure.
C'est un peu ça, Aurélie. Mais dans une prise de parole, il s'agit de dévider ses émotions au public, les partager pour provoquer l'empathie. Je ne cherche pas à contaminer mon public, mais je l'informe de ce que j'ai comme virus et nous résistons ensemble à la contagion émotionnelle négative ou bien nous partageons les émotions si elles sont positives.
Oui, je reviens 2 secondes sur cette idée de douche psychique. En fait, en communication non violente, c'est l'idée, avant de prendre la parole par exemple, ou avant d'entrer à la maison et de déverser nos émotions sur des gens qui n'y sont pour rien, c'est l'idée de réfléchir pendant quelques instants à ce qu'on ressent, à ce dont on a besoin. Et il me semble que ça peut être aussi une clé pour l'éloquence. Est-ce que tu as une autre clé, toi peut-être, Marion ?
La clé suivante, c'est celle du vocabulaire. Pour que le message porté soit transmis avec force et clarté, il faut développer un lexique concis, clair, explicite et sans jugement. Attention, cela ne veut pas dire que l'on n'utilise que des mots simples. Il faut plutôt apprendre à bien choisir ses mots, à imager son propos, à créer des références qui illustrent vos idées en puisant dans la culture, l'actualité, l'histoire ou encore la littérature. Votre message se doit d'être digeste en quelque sorte, ni trop court, ni trop long, mais aussi attractif. C'est une étape difficile de l'apprentissage, mais c'est possible.
Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout.
Immotez pas vous.
C'est une bonne situation, ça, scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Cet extrait d'Astérix Mission Cléopâtre est frappant. Le personnage du scribe se lance dans une explication, puis une réflexion pseudo-philosophique sans fin. On perd le fil très vite, et lorsqu'il a terminé, on est incapable ou presque de retranscrire sa pensée. Si vous vous souvenez de la scène, le personnage de Numéro Bis, joué par Jamel Debbouze, ne sait pas trop quoi faire. Il acquiesce de la tête, avec un regard vide. Même chose pour Astérix, Obélix et Panoramix, qui sont un peu comme figés. Ils sont perdus. C'est un échec, ce propos, parce que le message est trop long et trop complexe pour être compris.
Et on gagne aussi en dynamisme, non, quand on choisit le bon vocabulaire?
Oui, c'est sûr. D'autant plus si vous travaillez votre diction pour qu'elle soit claire, et c'est la troisième clé d'une prise de parole réussie.
Une diction claire, c'est-à-dire...
Rudy et Roger regardent le rugby sur un siège rugueux et rouge en agitant leurs gourdes et leurs guirlandes, ce qui les ragaillardit.
Assurez-vous que votre débit de parole est adapté au message que vous voulez faire passer. Vous donnez une information ? Utilisez un débit moyen et jouez sur les ruptures de rythme, des pauses au moment important, des accélérations pour donner de l'énergie à votre propos. Vous cherchez à convaincre ? Choisissez un débit assez lent pour marquer votre propos, etc., etc. Vous pouvez jouer aussi sur votre voix. Elle peut être forte, murmurée ou sur le ton de la conversation.
Moi, parfois, quand je suis stressée, quand je prends la parole, je me sens essoufflée. J'arrive plus à respirer efficacement.
Ce sont les effets du trac, en effet. Le cœur s'accélère et emballe la respiration. Parfois, à cela s'ajoutent des rougeurs, des sueurs ou d'autres symptômes physiques. Il existe des techniques de gestion du stress, mais ce sera l'objet d'un autre épisode. Cependant, il existe aussi un moyen qu'on peut oser utiliser, la sincérité. Si tu es essoufflée, Aurélie, arrête-toi et dis à ton public que tu es essoufflé parce que tu es stressé. Tu évacues l'émotion, tu la partages, et souvent, ça va mieux.
Bah écoute, j'essaierai alors. Tu as une dernière clé à nous donner pour réussir une prestation orale ?
2 clés encore, si tu me le permets Aurélie, dont une essentielle que je garde pour la fin. Tout d'abord, évitez de remplir les silences à tout prix. Les « les « vous voyez » ou encore les « je veux dire » sont des pollutions sonores, des parasites en quelque sorte.
Alors là, c'est violent ça.
Oui, pardon. Ce sont des parasites au sens sonore seulement. Comme les petits sons que tu élimines, tu sais, en montant les épisodes des podcasts, Aurélie. Cela peut être des tics de langage, des outils inconscients de gestion du stress, etc. Le problème, c'est que si ces mots ou sons de remplissage sont trop nombreux, ils finissent par prendre toute la place et on n'entend plus qu'eux. Vous perdez ainsi l'attention de votre auditoire. Encore une histoire de prof ?
Allez, vas-y Marion, on t'écoute.
Les fameux « du coup » qui se faufile partout dans nos phrases, ça vous parle? En ce qui me concerne, j'en ai abusé à un moment de ma vie de prof. Un jour, pendant un cours, je m'en suis rendu compte en voyant des élèves sourire lorsque je disais « du coup » pour la énième fois. Ils souriaient aussi parce qu'ils pratiquaient largement le « du coup » eux aussi. Je me suis arrêtée de parler et je leur ai dit qu'on allait compter les « du coup » en mettant des barres au tableau. Pendant une quinzaine de minutes, tout ce qui s'est dit a été oublié. Nous n'entendions plus que les « du coup » qui arrivaient malgré notre vigilance. En dehors du fait que nous avons beaucoup ri ce jour-là, nous avons détecté collectivement une expression parasite. J'ai la même histoire avec des hoquets qui sortaient à la fin de chacune de mes phrases.
Oui, mais là, tes élèves t'ont aidé, Marion. Comment identifier ces parasites sonores quand on est seul à préparer sa prise de parole?
Merci pour la transition, Aurélie. Je te réponds en donnant la dernière clé. Il faut toujours préparer une prise de parole, quelle qu'elle soit. Les rois ou les reines de l'impro, ça n'existe pas. Même le plus grand des orateurs a besoin de s'entraîner, de répéter. Si vous manquez de temps pour vous préparer, prenez au moins un moment pour organiser votre pensée, pour lister les points essentiels de votre propos. Et si vous avez du temps, écrivez et entraînez-vous. Idéalement dans les conditions les plus proches des conditions réelles de votre prestation. Vous pouvez aussi vous enregistrer ou vous filmer. Si vous êtes dans des situations plus instables du type discussion non prévue, autorisez-vous des pauses pour mettre en ordre vos idées. Ce n'est pas parce que vous répondrez vite à une question que votre réponse sera plus valable. Donc, prenez votre temps.
Ok, et pour finir, aurais-tu des conseils, des astuces pour apprendre à être éloquent ou éloquente?
Le meilleur et le premier des conseils, je l'ai déjà donné et j'insiste, s'entraîner, répéter. Utilisez vos amis, votre famille comme cobayes et allez-y. Que ce soit pour un entretien individuel, un entretien de recrutement, une réunion de projet, un feedback, une formation, un discours, peu importe, la répétition marche à tous les coups.
Encore des mots. Toujours des mots, les mêmes mots.
Vous pouvez aussi travailler votre confiance en soi, étoffer votre vocabulaire en lisant ou en farfouillant dans des dictionnaires. Il faut essayer de s'amuser un peu. Pour travailler la diction, jouez aussi avec des virelangues comme celles que vous avez entendues tout à l'heure, ces phrases difficiles à prononcer. Ou bien, comme Démosthène, grand orateur bègue de l'Antiquité grecque, parlez avec un stylo dans la bouche. Parlez aussi à voix haute devant votre miroir. Lisez des textes à voix haute en variant les débits, en variant la voix.
Et contactez Marion aussi, elle peut vous accompagner dans l'apprentissage de l'éloquence.
Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas oublier que l'éloquence est un art, et comme tout art, il évolue au fil du temps et nécessite une grande force créatrice. Le langage est humain, et c'est un outil universel. Soyez vous-même, et parlez.
Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail.
Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.